Bonjour à tous. Mon invité ce matin, c'est Catherine Tessier, chercheuse à l'ONERA. L'ONERA, c'est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, où elle est également référente intégrité scientifique et éthique de la recherche. Elle est membre du comité national pilote d'éthique du numérique et co-coordinatrice d'un ouvrage récemment paru intitulé « Pour une éthique du numérique ». Il est publié au PUF, les presses universitaires de France. Bonjour Francis. Bonjour Catherine Tessier, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour Éric Dupri, et merci beaucoup de m'avoir invité.
Je précise que vous avez coordonné ce livre, parce que j'ai bien dit co-coordinatrice, hein, vous êtes beaucoup, mais il y a trois personnes qui l'ont coordonné, c'est Éric Germain, Claude Kirchner, donc vous-même, ouvrage qui peut paraître, comme le titre l'indique, très pointu hein, au premier abord, mais qui traite de sujets de questions très actuelles. Avant d'en aborder le contenu, en essayant de le rendre accessible à tous ceux qui nous écoutent, on va s'y efforcer, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que le Comité national pilote d'éthique du numérique et pourquoi il s'est constitué.
Alors, le Comité national pilote d'éthique du numérique a été constitué suite, en fait, à une recommandation du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, où ce rapport donc préconisait de créer un comité d'éthique relatif au numérique en France. Donc, le Premier ministre a écrit une lettre de mission donc au président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, donc le CCNE, qui est plus connu, disons. Et dans cette lettre de mission, donc le Premier ministre demandait donc au président du CCNE de créer donc un comité pilote donc pour le numérique, avec trois saisines initiales, donc trois sujets que nous avions à traiter, qui sont les suivants, donc diagnostic médical et intelligence artificielle, le véhicule dit autonome, et puis les agents conversationnels ou chatbots en anglais.
Voilà, on apprend déjà un mot, ça commence bien. Alors, les membres, je ne vais pas vous demander de les citer tous parce qu'il y en a 27, mais quelles sont leurs qualités, leurs spécialités aux uns et aux autres?
Alors, bien sûr, nous avons des spécialistes du numérique, donc qui sont chercheurs et ou professeurs en informatique, en intelligence artificielle, mais nous avons aussi des sociologues, des juristes, nous avons un membre du Conseil d'État. Nous avons des juristes, donc professeurs de droit, anthropologues, sociologues, membres de la société civile, une députée. Voilà, donc c'est l'éventail.
C'est représentatif.
Oui, enfin plus ou moins représentatif, voilà, de différents courants de pensée et de spécialités surtout.
Alors la question que je vais vous poser maintenant va peut-être paraître un peu bébête à certaines personnes, voire à vous-même. Éthique, ça c'est un mot qu'on entend souvent, qu'on en emploie souvent, j'ai mon éthique personnelle, mais quel est son sens exact? Qu'est-ce que ça recouvre précisément, l'éthique?
Alors l'éthique, il y a deux acceptions, hein, si on se réfère tout simplement au dictionnaire de l'Académie française. La première chose qui est importante et qui est centrale dans un comité d'éthique, c'est que l'éthique, c'est une réflexion. Donc c'est une réflexion qui est relative à la condition humaine et aux valeurs morales, donc qui fondent cette condition humaine. Ça signifie que l'éthique est toujours en mouvement, c'est-à-dire que la réflexion ne s'arrête pas. Voilà, donc à un moment donné, un comité d'éthique va rendre un avis sur un sujet, mais cet avis sera possiblement remis sur la table et révisé en fonction en particulier des évolutions de la technologie. Alors après, il y a l'adjectif éthique, parce qu'aujourd'hui tout est éthique, mais ça n'a aucun sens en français, puisque l'adjectif éthique veut seulement dire qui a rapport aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, ou qui a rapport à la morale. Voilà, donc un café, par exemple, ne peut pas être éthique, ça n'a pas de sens.
Oui, parce que souvent, les gens emploient éthique dans le sens de morale.
Voilà, exactement. Alors après, on va pas s'étendre sur le sujet.
On va pas rentrer dans la discussion, mais voilà, c'est important, je pense, de préciser ça. Voilà. Et puis, numérique aussi. Numérique, ça c'est pareil. On a l'impression qu'on met beaucoup de choses là-dedans. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans le numérique.
Oui, il y a beaucoup de choses dans le numérique. Le numérique, d'ailleurs, est partout. Donc, c'est tout ce qui recouvre les technologies de l'information, de manière générale. Donc des mots plus connus, l'informatique. Bien sûr beaucoup de mathématiques qui sont impliquées dans le numérique, et puis aussi tout ce qui concerne la robotique, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et puis aussi une partie de la physique, les sciences cognitives, etc. Donc le numérique regroupe beaucoup de choses.
Et donc, le développement du numérique, la place qu'il a pris dans la société et dans nos existences, pose justement des questions, voire des problèmes spécifiques d'éthique.
Absolument. Alors pourquoi? Donc à la différence de des questions posées dans le domaine des sciences de la vie et de la santé qui examinent le CCNE depuis 1981, donc le numérique concerne tout le monde, partout, tout le temps. Ça c'est une caractéristique essentielle. C'est-à-dire que bien depuis que on a tous des ordinateurs, des téléphones évolués, etc., le numérique concerne absolument tout le monde à tous les âges de la vie. Ne serait-ce que pour préparer cette émission, nous avons échangé donc des courriels, mails. Voilà, des courriels en français. Cette émission va être certainement disponible à la réécoute, donc via le numérique. Donc voilà, un petit exemple hein, pour montrer que le numérique est vraiment partout.
Omniprésent. De quel constat vous êtes parti avec vos camarades, les différents contributeurs de cet ouvrage, parce que vous êtes beaucoup, hein, pour l'écrire et pour répondre aux questions d'éthique que pose le développement du numérique? Quels sont les constats qui vont servir de base après pour développer une pensée et donc tout ce qu'on trouve dans ce livre?
Voilà. Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce livre, puisque, donc, outre les saisines initiales donc, que nous a posées le Premier ministre, nous avons été pris immédiatement, puisque le comité a été installé fin 2019, nous avons été pris immédiatement à la crise sanitaire. Et donc, cette crise sanitaire, avec le confinement, etc., a justement bénéficié beaucoup des apports du numérique, hein, si on pense par exemple à l'enseignement à distance, aux téléconsultations hein, qui ont été mises en place,
le télétravail,
etc. Donc la culture via le numérique, hein, puisque les théâtres, les opéras, etc. ont mis en place donc des systèmes permettant de visionner à distance des spectacles. Ça et puis toutes les méthodes d'entraide hein, qui sont mises en place via le numérique pour aider les uns et les autres, en particulier à garder le contact avec les personnes les plus fragiles. Bon, à contrario, évidemment, voilà, ce développement du numérique dû à la crise sanitaire pose d'autres problèmes, c'est-à-dire certainement si ces pratiques perdurent, eh bien peut-être une perte de contact, par exemple, avec les personnes physiques, hein, c'est-à-dire qu'il est plus facile peut-être de dialoguer via son téléphone portable avec sa grand-mère plutôt que d'aller la voir, ou peut-être de rester dans son salon à regarder un spectacle de théâtre plutôt que de se déplacer dans le théâtre proprement dit. Donc ça pose ce genre de questions.
Est-ce que la question centrale, finalement, dans tout ça, c'est la perte d'autonomie des humains?
Oui, alors l'autonomie des humains, donc c'est la faculté donc des humains et de certains êtres vivants à décider par eux-mêmes et à se fixer ses propres lois. Évidemment, bon là c'est un sujet de philosophie. Hein. Sommes-nous vraiment autonomes hein, voilà,
oui.
On est évidemment autonome dans
qu'est-ce que la liberté.
Voilà, dans certaines limites, bien entendu. Alors effectivement, le fait de côtoyer donc les outils numériques peut certainement brider l'autonomie. Si on pense par exemple aux influences que l'on peut subir lorsqu'on est sur les réseaux sociaux numériques, on va aller lire des informations ou chercher des informations qui ont tendance à conforter ce qu'on pense soi-même. Et donc se crée ce qu'on appelle des bulles hein, dans lesquelles vous évoluez et vous n'allez pas voir ou rarement voir les bulles d'à côté parce qu'elles vont contredire ce que vous pensez. Hein, donc voilà un des effets des réseaux sociaux.
D'ailleurs, souvent,
numériques.
Les réseaux sociaux vous imposent presque d'aller vers ceux qui pensent comme vous, dans certains, en tout cas.
Les réseaux sociaux
domaines.
Numériques, ainsi que les moteurs de recherche. D'ailleurs, il faut bien en être conscient, c'est-à-dire que les moteurs de recherche vous proposent donc le résultat de vos recherches dans un ordre qui n'est pas du tout anodin. Hein, donc là aussi, les réponses sont orientées.
Alors, si on parle des dangers, évidemment, il y a des bénéfices, hein, ne l'oublions pas, il y a beaucoup de bénéfices au développement du numérique, y compris dans nos existences. Mais à quel danger on est confronté dans le développement actuel et peut-être encore plus à venir du numérique face à de possibles applications dans nos existences qui pourraient encore aller dans ce sens de la perte d'autonomie, de la perte de la capacité à se faire son opinion soi-même sur un sujet ou un autre?
Je vais prendre juste un exemple que je connais bien, puisque j'étais co-rapporteuse de l'avis en question. C'est le véhicule donc qu'on a appelé à conduite automatisée, pour ne pas dire autonome, justement pour ne pas confondre l'autonomie du vivant avec les capacités automatisées qu'ont un certain nombre d'objets. Donc si on prend cet exemple du véhicule à conduite automatisée, l'un des arguments pour développer, mais il y en a plein d'autres, c'est d'offrir de la mobilité aux personnes qui n'en ont pas. Par exemple, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les enfants. Bien. Alors, on peut dire, ah, c'est très bien, voilà, ils vont pouvoir se déplacer voilà, en utilisant un objet et sans contrainte. Sauf que, ce faisant, il faut se poser la question, oui, mais ces personnes, elles auront besoin d'être accompagnées, certainement, pour accéder à ce véhicule, voire pendant le trajet. Donc, il faudra forcément quelqu'un. Et puis, est-ce que les trajets, finalement, ne vont pas être imposés par la société qui développe ses véhicules, par le loueur de véhicules, etc. D'autre part, ces véhicules seront connectés les uns aux autres, connectés à l'infrastructure. Donc, ça signifie que on pourra suivre vos déplacements oui, en tout lieu et à tout moment.
Les grandes questions.
Voilà. Donc, quid des libertés fondamentales, de la liberté d'aller et venir, par exemple, de la liberté de déambuler en restant anonyme dans l'espace public. Voilà, ce sont des principes qui sont certainement remis en question par ce genre d'objet, alors qu'il est susceptible effectivement de rendre des services, mais il faut considérer tous les arguments et questionner les arguments qui amènent à développer ce type d'objet.
Oui, alors il y a d'autres questions comme celle de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, oui, numériques, entre autres. Mmh. Vous interrogez toutes ces questions dans divers domaines, l'éducation, la culture, la santé, la justice sociale, l'économie, l'environnement. Alors, il y a 5 grands chapitres dans ce livre. Je vais juste les donner rapidement parce qu'on arrive un peu à la fin. Là. Construire l'éthique du numérique, spécificité de éthique du numérique et enjeux sociétaux, droit, sociologie, quelle place dans l'éthique du numérique, parce qu'il y a évidemment des questions juridiques qui viennent derrière, si on met des garde-fous, comment on applique tout ça au niveau juridique. Et puis le dernier domaine, c'est l'éthique du numérique, quelques cas concrets, vous venez d'en donner un très clairement. Une question plus personnelle pour terminer, est-ce que vous croyez qu'on pourra endiguer les dérives du développement du numérique, par exemple dans le domaine de l'humain augmenté, ou est-ce qu'il faut craindre, comme le pense les plus cyniques, que tout ce qui rapporte de l'argent, bah, ça se fera, même si ça paraît indéfendable sur un plan éthique?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des grands acteurs du numérique qui sont essentiellement américains, mais aussi chinois, donc qui monopolisent beaucoup de services que nous utilisons quotidiennement et sans même les questionner. Hein. Attention, quand nous utilisons un moteur de recherche, par exemple, voilà, où vont nos données, comment sont-elles exploitées, etc. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui investissent beaucoup dans ces outils numériques. Tout ça pour des raisons financières et économiques. Hein. C'est pas forcément parce qu'il y a un besoin, mais c'est pour récupérer donc des informations sur nous et nous vendre toujours plus de choses. Je ne prendrai qu'un exemple sur lequel nous allons peut-être réfléchir au comité, qui est celui des réalités augmentées, des réalités virtuelles. Voilà, ces mondes, hein, ces réseaux sociaux numériques qui seraient non plus simplement des échanges par des messages, mais qui seraient des échanges dans un monde virtuel. Voilà, où là, il serait possible aussi d'acheter des biens, de les revendre, de spéculer, etc. etc. Donc là, ce genre de réalité est très utile, par exemple, dans le domaine médical ou dans le domaine de la conception d'objets. Mais après, est-ce que c'est utile voilà, pour enrichir les réseaux sociaux numériques? C'est une question qu'on peut poser.
Il y aura toujours la question, où va-t-on mettre le curseur? Les garde-fous, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ce soit sclérosant, que ça empêche le progrès. Merci beaucoup, Catherine Tessier. Vous faites donner une conférence le 2 juin. Je crois,
hein. Oui, il est prévu, donc une date à confirmer, un lieu à confirmer, mais à l'initiative de l'espace de réflexion éthique Occitanie, dont nous donnerons une conférence donc sur un certain nombre de sujets de ce livre le 2 juin à Toulouse, a priori salle du Sénéchal, voilà, donc à destination de tout un chacun, donc vous y êtes conviés.
Nous le rappellerons à Radio Présence. Merci encore une fois beaucoup, Catherine Tessier. Je rappelle que pour une éthique du numérique, le livre que vous avez co-coordonné avec Éric Germain et Claude Kirchner, justement, est paru tout récemment aux Presses universitaires de France. C'est